Bonjour à tous et bienvenue au Pied de la Lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Leurs noms résonnent à nos oreilles comme les maîtres de la poésie et de l'émotion, mais ce sont des hommes qui ont bousculé l'art des vers pour mieux saisir à la gorge la force des mots. Rimbaud, Verlaine et un troisième mal connu, inconnu, qui pourtant fut leur compagnon d'errance. Guy Goffet le confesse, Verlaine est l'auteur de sa vie, Verlaine le poète, l'homme aussi, épris d'idéal et pourtant maudit, qui se raconte entre les lignes. Verlaine, dont Goffet, le poète, propose une sélection sensible d'une œuvre toujours à découvrir. Verlaine de Guy Goffet est publiée chez Buchet-Chastel. Rimbaud, c'est tout un monde, une constellation, nous dit le romancier Jean Rouault, qui raconte l'enfant terrible de la poésie au fil de ses voyages et de ses rencontres. Toujours entouré et pourtant si seul, Rimbaud fut une étoile filante, délaissant trop vite la poésie pour l'Abyssinie. La constellation Rimbaud de Jean Rouault est publiée chez Grasset. Et puis, compagnon des bons et des mauvais jours, Germain Nouveau cultivait une telle exigence poétique qu'il ne parvint jamais à se faire connaître, alors même qu'Aragon lui-même l'estimait aussi génial que ses coreligionnaires. Sa vie plus longue ne s'inscrit pas vraiment dans l'histoire. Martin Mirabel y remédie avec cette biographie sensible. Germain Nouveau, un cœur illuminé, c'est édité au quai Michel de Maulle.
Au pied de la lettre, Christophe Héningue.
Et oui, trois invités pour cette émission exceptionnelle consacrée à la poésie. Bonjour Guy Goffet.
Bonjour.
Éditeur, écrivain, la bibliographie impressionnante et poète surtout, vous avez reçu de nombreux prix. Je ne citerai que le Grand Prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. C'était en 2001, ça veut dire que cette œuvre s'est encore enrichie depuis. Et puis le Goncourt de la poésie en 2010. Verlaine, à qui vous aviez déjà consacré plusieurs livres, revient avec ce volume dans la collection Les auteurs de ma vie. Verlaine, assurément, et d'autres encore.
D'autres auteurs ?
Oui, qui mettriez-vous aussi dans les auteurs de votre vie ?
Un auteur anglais qu'on connaît peut-être peu, qui s'appelle Winston Hugh Oden. Oden. Voilà, c'est un de mes grands auteurs. Et puis Borges. Jorge Luis Borges. Dans les auteurs français, il y en a beaucoup que j'aime, comme Aragon, par exemple. J'aime Aragon, j'aime Marie-Noël aussi. Vous voyez, j'aime vraiment des gens. Mais Verlaine reste pour moi quelque chose de je ne dirais pas que c'est décisif dans mon œuvre, puisque ça n'a pas... J'ai rencontré Verlaine à 47, 48 ans au Québec, où je m'ennuyais un petit peu des paysages qui étaient différents, et j'ai retrouvé la France, ce qui fait le génie français
dans Verlaine, en
passant à la radio. Et j'ai lu Verlaine au Québec, les deux volumes parus dans la Pléiade. C'est-à-dire l'œuvre à l'époque. Maintenant, il y a la correspondance, il y a tellement de choses. Mais Verlaine est donc un maître.
On va y venir, Verlaine le maître. Bonjour Jean Rouault.
Bonjour.
Vous nous rejoignez par téléphone. Vous êtes prix Goncourt 1990, on le rappelle, pour les chants d'honneur. Vous avez écrit de nombreux romans inspirés de la vie familiale. Un cycle aussi consacré à la vie poétique, qui s'achève par Kiosque, racontant vos années de kiosquier à Paris, rue de Flandre. Il y a de la poésie dans les journaux, dans le quotidien, dans les histoires de famille aussi.
Et c'est le traitement que vous en faites, libre à vous d'en faire de la poésie ou un fait divers. C'est une aspiration, ça s'appelle le lyrisme. Et le problème, c'est comment faire rentrer le réel, faire admettre le lyrisme dans le réel. Ça, c'est la grande... C'est la grande question que se posait Flaubert déjà du temps avant d'écrire Madame Bovary. Il avait conclu qu'il fallait s'opérer du cancer du lyrisme, c'est-à-dire évacuer la poésie pour faire entrer le réel dans le roman. Moi, je me bats aussi avec ça depuis 40 ans, quelque chose comme ça. Faire entrer le lyrisme dans le réel.
C'est en ce sens que Rimbaud est peut-être un poète du réel, davantage que du lyrisme, certainement.
La poésie de Rimbaud, la poésie rimée, est une poésie réaliste. Le Donjon du Val, on voit le type au fond du vallon avec ses deux trous dans la poitrine, on voit la serveuse dans le cabaret vert, et les orphelins dans les étrennes. C'est une poésie qui est très visuelle, très réaliste, mais qui tient par le cadre même poétique de la mesure et de la rime. Et le problème, c'est quand on enlève la mesure et la rime, c'est ce qu'il dit à Banville, ce qui ne ferait pas tant d'abandonner l'alexandrin. Alors à ce moment-là, on se retrouve avec le réel brut, et comment faire c'est encore une fois la problématique de Flaubert, comment faire chanter le réel et quand on n'a plus cet artifice de la rime et de la mesure, et ça donne les illuminations, mais c'est une langue qui est tellement sophistiquée, qui ne rend tellement peu compte du réel, que Rimbaud arrête et il va embrasser la réalité rugueuse.
On va raconter tout ça pendant l'émission. Bonjour Martin Mirabel.
Bonjour.
Réalisateur et biographe, vous êtes tenté à la fois par la musique et l'écriture. Dans votre livre, vous rendez justice à Germain Nouveau, poète et surtout ami des poètes. C'est dur pour Germain Nouveau de fréquenter les grands.
Je pense que ça lui était naturel, puisqu'il avait une ambition, comme tout jeune homme qui montait à Paris de ce temps-là, de fréquenter les grands. Et puis, il faut le dire aussi que dans le contexte, il n'était pas grand. Rimbaud était un paria à l'époque où il a rencontré Germain Nouveau. Il ne fallait absolument pas le fréquenter. Verlaine était plus connu, mais il l'a fréquenté plus tard que Rimbaud. Il a rencontré Rimbaud avant. Et donc, Germain, je pense que c'était naturel de baigner dans ce climat de poésie, de la bohème de l'époque, du Quartier Latin. Il a fréquenté aussi Mallarmé, le groupe des Vivants. Et donc, je pense que c'était plutôt naturel.
Vous allez nous raconter son histoire, parce qu'il est peu connu aussi, hein, même si, effectivement, il est dans tout ce groupe qui tourne des Parnassiens.
Oui, tout à fait, il est peu connu, et pour différentes raisons. Et la première, c'est lui-même. C'est d'abord de sa faute, et c'est d'abord volontaire. Il a cherché, au début de sa vie, on va dire, pour aller vite, à se faire connaître, et dans la deuxième moitié de sa vie, à disparaître. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la contradiction, qui travaille ça sur le motif. C'est très intéressant, et c'était une vraie question de conscience au début pour moi d'écrire ce livre, parce que je me suis demandé si c'était même légitime de vouloir sortir Germain Nouveau de l'oubli. Enfin, faut commencer par là. Lui, il a cherché
contre
à vraiment, voilà, exactement, il a cherché à rentrer dans l'oubli, à rentrer dans le néant en pleine gloire. Et donc, je me suis dit que c'était quand même temps d'écrire ce livre, parce que c'est important. Il y a eu quand même 2-3 précurseurs, mais j'ai pris le prétexte du centenaire de sa mort l'année dernière, en 2020, pour m'y mettre. Et voilà, c'est bien qu'ils rejoignent le duo Verlaine et Rimbaud, et que ça fasse enfin une trinité.
Verlaine est entré dans ma vie comme la foudre dans une maison fermée. Guy Goffet, écrivez-vous. Vous m'avez dit un peu comment vous l'avez rencontré, comment vous l'avez lu, vraiment... cette volonté de tout découvrir d'un coup, là, quand vous étiez donc au Québec. Une maison fermée, qu'est-ce que Verlaine est venu bousculer chez vous ?
Eh bien, il est venu bousculer Rimbaud, d'une certaine manière. Parce que au collège des frères, j'avais choisi Rimbaud contre Verlaine, pour toutes sortes de raisons que j'ai expliquées dans un livre qui s'appelle « L'autre Verlaine ». Des raisons d'enfance, le mot Verlaine me déplaisait, alors qu'est un très beau mot, un très beau nom, me déplaisait énormément pour toutes sortes de raisons, et notamment une raison que j'ai racontée tout à l'heure. J'ai perdu ma gloire d'enfant, de joueur de football, enfant, à cause d'un Verlaine. Descendu au milieu de l'année, entré au milieu de l'année dans ma classe, et qui a réduit mon statut de gardien de goal et mérite en passoire. Et donc j'en ai voulu
ça suffit,
à ce mot de Verlaine, et puis il y a eu d'autres choses. J'avais besoin de quelque chose, vous savez, de violent à l'époque. J'étais très révolté, et quand on est enfermé derrière des grilles, eh bien, on choisit celui qui est le plus fort. On m'a présenté en balance à choisir. Le professeur m'avait présenté un poème de Verlaine, très tendre, et à côté, un poème de Rimbaud, qui était le dormeur du Val, mais ce grand poème. Ah, donc je ne retrouve pas le nom.
Vous allez nous retrouver
le
ça pendant...
Enfin, le bateau ivre,
bien voilà. sûr.
Bon, donc là, Verlaine, pour effectivement... moi, représentait, si vous voulez, la langue française dans un pays où j'avais en besoin d'entendre tout ce qui fait la musique de la langue française. Tout ce qui fait la beauté de la langue française, je voulais le retrouver. Et ça me manquait. Au bout de 2 mois passés au Québec, j'avais besoin de l'entendre de nouveau.
Et pourtant, c'était plutôt Rimbaud, le voyageur. Alors, Verlaine, dont l'art consiste, écrivez-vous, à être absolument soi-même, est le premier poète de son temps à avoir mis absolument son cœur à nu.
Oui.
C'est comme ça qu'on peut décrire la poésie de Verlaine.
Ben, c'est une poésie qui essaie de rendre la sensation vraie, la sensation au plus juste, et de garder toutes les hésitations, tous les trébuchements de la langue, d'en jouer. Alors, pour moi, c'est quelque chose de Verlaine est quelqu'un qui a réussi à saisir ce qu'est la langue française. Voilà. Et en même temps, il raconte sa vie. C'est sa vie au plus proche. Il l'a vraiment vécu. Ce que Baudelaire a tenté, lui, il l'a réalisé.
C'est-à-dire être dans son écriture.
Et son écriture, c'est le miroir de sa vie. C'est sa vie. Il parle de lui. Il parle de ce qu'il ressent. Sans arrêt. Il ne raconte pas comme Rimbaud. Il n'a pas d'imaginaire. Pas du tout d'imaginaire. Il est ni dans la réalité. Il est dans la réalité de ses sensations.
Transcendé par la langue.
Ah, ben, la langue, c'est une, on a dit que c'était une musique, faute de trouver un autre mot. On n'a pas trouvé d'autre mot pour dire l'harmonie, la délicatesse de la chanson grise. Quel autre mot? C'est pourquoi une anthologie est d'une véritable nécessité. Il y en a déjà d'autres, mais peu importe, on peut rechoisir en fonction de soi-même.
Ça fait justement comment vous l'avez vous-même reçu. Alors ce Verlaine, il est, vous le dites, il raconte sa vie dans ses poèmes, mais en même temps c'est une vie compliquée, parce que à la fois il a envie d'une vie, j'ai envie de dire, honnête, bien rangée, et puis finalement il est aussi il boit comme les autres et bien souvent perdu aussi, jusque même à la fin où il perd la tête par moment. C'est un homme déchiré, non ?
Déchiré, je ne suis pas sûr qu'il le soit déchiré. C'est un enfant. Verlaine, c'est un enfant qui ne grandira jamais. Et qui éprouve ses sensations, qui les éprouve comme un enfant éprouve les sensations, qui découvre tout. Il est immédiatement séduit et enchanté par les choses, ou il est immédiatement blessé. Il a une sensibilité très fine. Il a un seul grand défaut, c'est qu'il ne permet pas qu'on abuse trop de lui. Et comme il est naïf, il se laisse chambré très souvent, jusqu'au moment où il se révolte, il devient violent. L'alcool n'arrangera rien. Voilà, l'alcool, et puis pas n'importe quel alcool, puisque là, c'est l'absinthe, dont on sait que...
On disait
qu'il en faisait, il fallait 3 pour tuer un cheval. Lui dépassait le nombre de 3. C'est quand même quelque chose qui est devenu interdit parce que ça attaque le cerveau immédiatement.
Est-ce que c'est un idéaliste déçu ?
Non, je ne pense pas qu'il soit idéaliste du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? Vous voyez un enfant devant les choses, il les ressent immédiatement sans avoir de préjugés. Et je pense que Verlaine l'est jusqu'au bout.
Dans sa quête
mystique.
Que ce
soit devant la femme, que ce soit devant Dieu, c'est ce retour à l'enfance. C'est très important, il retrouve la foi de son enfance. Il ne retrouve pas... il va lire des tas de livres, soi-disant. On a dit qu'il avait lu Saint-Augustin en prison, qu'il avait lu Monseigneur Gaume, qu'il avait lu et ceci. Il savait des tomes et des tomes et des tomes. Saint Thomas d'Aquin, presque. Non, soyons raisonnables. Il a retrouvé... quand vous êtes au fond du trou, vous retrouvez ce qui vous tient, ce qui est au fond, et qui est cette foi d'enfance... ce bonheur des lumières, ce goût de l'encens, et en même temps, cette assurance, que rien ne peut lui advenir. Il souffre, mais c'est sa faute. Il reconnaît ce qu'il est, tout le temps. Verlaine, c'est un homme, on a dit que c'était un homme qui avait, c'est sa, son ex-épouse qui a dit ça, Mathilde Mottet de Fleurville, qui a dit dans ses mémoires qu'il était un homme qui avait commis des fautes pendant toute sa jeunesse et qu'il avait, pendant la moitié de sa vie, et l'autre moitié, il s'était repenti. C'est quelqu'un qui se repent tout de suite, qui se reconnaît tel qu'il est. Comme Villon, d'une certaine manière. Encore qu'il y ait un certain jeu, peut-être, chez Villon.
Alors, on va y venir, parce que, forcément, avec vos trois livres, on est pas loin de cette histoire de Rimbaud-Verlaine, toujours.
Ah, ben, ça viendra.
Alors, voilà, 4 ans, finalement. Ils se sont pas fréquentés tant que ça.
Non, pas quatre ans. En fait, ça a duré un an. Minimum, même pas un an.
Après, c'est des correspondances.
Parce
qu'ils se croisent.
Ils se voyaient. Ils se voyaient, ils se perdaient, l'un rentrait à Roche ou à Charleville, et l'autre allait en Belgique chez ses tantes, ou revenait chez Mathilde qui le chassait. Ça a été un chassé-croisé. Et c'est vrai qu'ils ont été ensemble un moment, c'est-à-dire quelques moments. Ça a duré presque un an. Alors c'est vrai que dans si on prend les années du début à la fin, ça fait ce que vous dites.
Ouais, 1871-1875 Rimbaud, c'est quoi? C'est l'ange noir de Verlaine?
Rimbaud, c'est pas du tout l'ange noir de Verlaine. Ça va le devenir, si vous voulez, d'une certaine manière. Ouais. Si on le regarde de l'extérieur, il est emballé, non pas par ce garçon, il est emballé par ce qu'il écrit, par ce qu'il a reçu. C'est pas possible. À 17 ans, à 16 ans, avoir écrit ça.
C'est
donc
là qu'il
venez,
le dit.
Venez, on vous attend. Mmh. Et puis ce garçon va l'entraîner sur son penchant, qui est d'abord l'alcool, la vie libre. On se demande comment il a pu, parce que c'était vraiment un petit bourgeois, délicat, aimant les choses fines, le théâtre, la musique.
Un esthète.
Un esthète, je crois qu'on peut dire ça. Et c'est étonnant, enfin, on ne comprend pas. C'est quelqu'un qui se laisse aller. Il se laisse prendre par les amis, par les amitiés. Et celle de Rimbaud. Rimbaud, c'est quelqu'un qui a une influence importante.
Et pas que sur Verlaine, mais en tout cas sur Verlaine,
ça a été loin. Oui, est tellement importante qu'il ne faut pas l'oublier que sans Verlaine, Rimbaud n'existe pas, n'existe plus aujourd'hui. Mmh. On n'en parlerait plus, on ne saurait plus. C'est Verlaine qui s'est occupé de ramasser, réunir, retrouver les poèmes, etc., de les préfacer et de le lancer avec ces fameux poètes maudits qui réunit six poètes.
Dont Rimbaud, dont il voudrait faire partie aussi.
Verlaine veut faire partie, veut en faire partie, mais... Comment faire partie? Comment se mettre dans une anthologie qu'on compose soi-même? On sait très bien que ça ne se fait pas. Mmh. Eh bien, il va s'y mettre. Il a une anagramme. Il fait une anagramme de son nom, qui est Pauvre Lélian, et qui lui convient tout à fait. Et il va se placer à la fin de ce livre. C'est le sixième poète. C'est la notice la plus courte, la plus amusante, parce qu'il a modifié tous les titres de ses œuvres. C'est très amusant de lire Verlaine par lui-même, d'une certaine manière.
Ce livre qui arrive bien plus tard, ça fait longtemps qu'ils
se
sont plus vus.
En 88, je crois.
C'est une sorte d'apaisement, de testament. Comment vous le voyez?
Je ne pense pas que ce soit... Sur un testament, il avait écrit, vous savez qu'il commence à écrire dans Les Hommes d'aujourd'hui, que Vanier avait lancé. Vanier, qui était un éditeur, avait lancé un journal. Et dans ce journal, il y avait une rubrique qui s'appelait Les Hommes d'aujourd'hui. Et que Verlaine a tenu, parce qu'il avait besoin de l'argent. Sortes de biographies ou d'articles. On ne va pas dire d'articles critiques, parce que Verlaine, s'il est critique de façon intuitive, Il n'a pas de véritable critique. Il suffit de lire les textes de les textes qu'il a mis dans les textes sur Rimbaud, sur Mallarmé et sur les autres poètes. Dans ce livre, Les poètes maudits, bon, il raconte des anecdotes. Il dit comment il aime. Voilà. Mais c'est tout. C'est pas un véritable critique. Or, pourtant, ça n'a jamais été contesté. Il reste aujourd'hui
encore. Il a une prose extraordinaire. C'est fou. Il omet Germain Nouveau dans son anthologie des poètes. Il l'omet volontairement. Germain Nouveau était actif. Il le connaissait depuis, depuis plus de 10 ans à l'époque.
Or, c'est lui qui va le convertir.
Absolument. C'est Verlaine qui convertira Germain
et
Nouveau.
Et en convertissant Germain Nouveau, eh bien, Germain Nouveau va détruire toute son œuvre, ou quasi.
Oui, c'est la conséquence funeste et finale. Mais je ne pense pas que Verlaine l'ait fait pour ça non plus. Les convertis par Machiavelli,
bien sûr.
On va y venir, hein, sachant qu'ils ont tous les deux pris après le chemin de Benoît Labre.
Absolument.
Qui est aussi
dans le
aussi,
nord de la France.
Voilà. Une grande figure du 19e siècle.
Ah, oui,
Jean Rouault, quand on écoute Guy Goffet nous parler de Verlaine, ça vous réconcilie avec ou vous n'êtes pas, d'ailleurs peut-être pas fâché avec Verlaine?
Non, je ne suis pas fâché du tout. J'ai lu la préface de Guy là, à son recueil. Et comme c'est un amoureux de Verlaine, on a tendance à le suivre. Moi, j'ai un avis plus nuancé. Je le vois plus avec des désirs de faune. Il est quand même tiraillé par c'est quelqu'un qui a une puissance de vie qui va le terrasser, en fait. C'est de ça. Et la poésie est son continuum, alors que c'est pas le cas du tout de Rimbaud. Rimbaud vient à la poésie parce que c'est un moyen qu'il a trouvé pour briller, parce que c'est quand Guy dit que Verlaine était un éternel enfant, on a l'impression que Rimbaud ne l'a jamais été enfant. Très vite, c'est un surdoué, on le reçoit comme ça. C'est un phénomène de foire déjà à Charleville au collège, capable de torcher des vers latins comme ça au débeauté. Et quand il dit à Delahaye pour la pensée avant de partir pour Paris, pour la pensée je ne crains personne, je suis gauche timide. C'est quelqu'un qui a une intelligence extrême. De toute façon, faut lire ses textes quand on voit l'âge de ce garçon à ce moment-là, c'est hallucinant l'intelligence, c'est prodigieux. Nous on est des vieillards et on est à chaque fois éberlué par sa puissance de pensée. Simplement au bout d'un moment, la poésie a été ce lieu où il a pu loger cette intelligence-là pendant un moment donné, et après il est parti ailleurs. C'est pas une vie en poésie comme Verlaine qui effectivement met toute sa vie dans sa poésie. Rimbaud, il y est de manière cryptée. Et on a dans ses recueils à la fois dans sa poésie versifiée ou dans les Illuminations ou dans les Saisons d'enfer. Lui aussi, il a une base autobiographique. Une saison en enfer, c'est un livre autobiographique. Il raconte comment il s'est perdu avec la poésie, comment la poésie l'a perdu, puisqu'elle l'a amené à rencontrer Verlaine et la débauche, la bauge et compagnie, et jusqu'au coup de feu fatal de Bruxelles. C'est un acte de contrition. Et dans les Illuminations, quand on arrive à décrypter le soubassement autobiographique, c'est passionnant aussi de voir comment à partir de ce soubassement autobiographique, il transfigure ce réel, mais au point de le mettre de tellement le métamorphoser qu'il ne dit plus rien, ce réel métamorphosé par Rimbaud.
On va venir à Rimbaud. Je vais juste demander, Guy Goffet, si vous pouvez, justement, dans ce recueil que vous avez préparé, j'allais dire cuisiné, mais c'est un peu ça, quoi, en mettant les ingrédients que vous vouliez nous partager dans Verlaine. Est-ce qu'il y a un poème que vous voulez bien nous lire?
Je pourrais vous lire tous les poèmes qui sont ceci. Je pourrais vous dire aussi un certain nombre, oui.
Oui.
Ah, je vais vous dire celui-ci. Ah, triste, triste était mon âme à cause de cette femme. Ah, oui, j'aurais mieux fait de le prendre, effectivement.
Prenez-le.
Oui,
on le sent habiter, ce poème de Verlaine.
Non, je vais en prendre un autre, si c'est permis.
Tout est permis, Guy Goffet, on vous écoute.
Âme, te souvient-il au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis, t'amenant chaque jour venu de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant je me rappelle, mes stations au bas du rapide escalier dans l'attente de toi, sans pouvoir oublier ta grâce en descendant les marches, mince et leste, comme un ange le long de l'échelle céleste. Ton sourire amical ensemble et filial, ton serrement de main cordial et loyal, ni tes yeux d'innocent, doux mais vifs, clairs et sombres, qui m'allaient droit au cœur et pénétraient mes ombres. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet auteuil. Et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Oh, tes forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance, oh, si franche à nier, mais si vite quittée au premier pas du doute. Et puis nous rentrions, plus que lent, par la route, un peu des écoliers, chez moi, chez nous plutôt, y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne. C'est un poème écrit à la suite, dans Amour, à la suite de la mort du typhus de son ami
Lucien
Létinois.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Je suis venu te dire que je m'en vais, Serge Gainsbourg, 1973, qui reprend un texte de Verlaine. Au pied de la lettre, aujourd'hui, je reçois Guy Goffet pour Verlaine, publié chez Buchet-Chastel, collection Les auteurs de ma vie. Jean Rouault pour la constellation Rimbaud, publié chez Grasset et Martin Mirabel, pour Germain Nouveau, Un cœur illuminé, aux éditions Le Quai Michel de Maulle. Un mot simplement, Guy Goffet, sur Gainsbourg qui vient... prendre les mots de Verlaine.
Ben, je pense que Gainsbourg est un de nos grands, je dirais presque c'est un musicologue, tellement quelqu'un qui connaît la musique. C'est pas étonnant que d'ailleurs les plus grands musiciens peut-être chez nous ont mis Verlaine en musique. Les plus grands l'ont choisi, que ce soit Fauré et tant d'autres ici. Et parmi les jeunes, parmi les musiciens, les chanteurs, il y a quand même, je crois que presque tous les grands, Brassens a chanté, et d'autres l'ont chanté. Je n'ai pas la mémoire des noms ici pour le moment, mais c'est pas étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. C'est quelqu'un qui connaît la musique. C'est quelqu'un qui est vraiment inventif dans la musique. Et la recherche d'harmonie, etc., ce Serge Gainsbourg. Qui lui-même n'était pas...
Avait
une vie aussi un peu cavaleuse ou cavalière, je ne sais pas comment on peut dire.
Voilà. Jean Rouault, alors Rimbaud, venons-en à Rimbaud. 37 ans d'une vie menée, si j'ose dire, à tombeau ouvert, un poète insaisissable. Vous écrivez « Partir, il n'a fait que ça, il lui suffisait d'être là pour avoir envie d'ailleurs ».
Ça, c'est évident quand on suit Rimbaud à la trace. Mais c'est une insatisfaction personnelle. Ce n'est pas partir pour partir... ce n'est pas quelqu'un qui est hanté par le voyage, c'est quelqu'un qui cherche l'endroit où se poser, qui cherche, comme il a dit, le lieu et la formule. Et le lieu, chaque fois qu'il arrive quelque part, est toujours déceptif chez Rimbaud. Quand il est à Charleville, il rêve de Paris. Quand il arrive à Paris, il trouve que c'est une ville qui n'est pas intellectuelle pour deux sous. Il est déçu par les gens qu'il rencontre parce que il s'est fait une idée de la poésie parisienne, du Parnasse, etc. Il voit des gens, quand on voit la liste de ceux qui composent le Cointable de Fantin-Latour, hormis les deux en bout, là, Verlaine et Rimbaud, ce sont que des illustres inconnus. C'est des gens qui n'avaient qu'une idée, c'était de briller un moment et puis bien vite s'embourgeoiser. Quand vous pensez que Jean Richepin, qui incarnait justement cette bohème insouciante et rebelle, il finit à l'Académie française présenté par Maurras. Donc Rimbaud, avec son intelligence incisive, comme ça, voit très bien derrière tous ces gens-là que ce sont au fond d'habiles faiseurs. Et donc il va choisir Londres. C'est comme ça qu'il va y entraîner Germain Nouveau, parce qu'il dit que c'est là que ça se passe. Et effectivement, Londres est en train de devenir la ville la plus importante du monde, une espèce de bouillonnement humain et financier et économique. Et après, il va se lasser aussi de Londres, et puis il va aller voir ailleurs toujours. Mais c'est quelqu'un qui rêve de se poser. Quand il est au Harare, il rêve de retourner à Châteauville et de se marier. Il demande à sa mère de faire l'entremetteuse pour lui trouver une femme. Et puis après, il dit non, je ne pourrais pas pas retourner à Charleville. Je vois bien que je ne peux pas rester en place. Donc il rêve à ce moment-là d'épouser une femme qui le suivrait dans ses voyages. Mais une fois qu'il est au Harare et à Aden, il n'en bouge pas quand même pendant 10 ans. Alors évidemment, c'est ponctué de tous ces incessantes navettes qu'il fait avec ses caravanes comme ça, des plateaux jusqu'à la côte pour sa marchandise, pour les cafés, etc. Mais ce rêve de se poser, il va aussi l'imaginer à travers des études, où à un moment il veut reprendre des études d'ingénieur, il se confie à Delahaye d'une manière très très sérieuse. Et puis après il va rêver d'une installation pour un fils. Il va vivre avec une femme au Harare qui s'appelle Mariam. Et elle va être enceinte, et malheureusement, elle va faire une fausse couche. Et il rêve d'avoir un fils ingénieur, qui sait être ingénieur, c'est s'établir. Donc, ce rêve d'établissement qu'il n'a jamais, évidemment, réalisé, c'est ce qui le hante, en fait. Et partir, c'est parce qu'il est tiraillé aussi entre le pôle maternel, qui est l'enracinement, Roche, la ferme, vraiment cette femme-là, costaud, là, qui est planté dans sa ferme dans la terre de Roche, avec ses rêves de châtelaine, puisque c'était une espèce de grosse bâtisse comme ça que son père avait acheté après la liquidation des biens du clergé pendant la Révolution, et c'était les châtelains du coin. Et donc il y a cet adoubement comme ça par la terre d'un côté, et puis de l'autre côté il y a le père qui lui part. C'est le père qui part tout le temps. Rimbaud revient à Charleville, il revient à Roche. Le père n'est pas revenu. Il est venu 5 fois pour faire 5 enfants à sa femme, puisqu'il y a une petite fille qui est morte à 4 ou 5 mois. Et après, c'est lui qui fuit, c'est lui qui part, et il va être en Algérie. On sait qu'il va traduire le Coran, etc. Ouais. Et donc Rimbaud est hanté aussi par cette figure du père.
Du père. Dans votre livre, Jean Roux, vous l'avez monté comme... Alors vous dites déjà que Rimbaud est affamé d'amitié. Vous nous racontez sa vie à travers toute une galerie de personnages qu'il rencontre. Et à chaque fois, on a l'impression que voilà, ce sont des rencontres qui ont compté, mais qui ont compté pour peu de temps à chaque fois.
Il épuise tout le monde. Alors, affamé d'amitié, c'est le mot de Delahaye. Et c'est vrai qu'il va avoir des amitiés brèves avec Rimbaud, avec Verlaine. Il l'a raconté. C'est à peine un an de cohabitation, vrai. Après, il passe son temps à se taper dessus. Germain Nouveau, c'est quelques mois. Quand il Delahaye, c'est au fond les 2 ans qui passent quoi. Là aussi, un an après la défaite de 70, lorsqu'ils sont vraiment tous les deux à Charleville, là, comme deux copains soudés l'un à l'autre, il envoie premier Isambard et Isambard lui répond, je ne vais pas vous répondre que vous êtes fou parce que ça vous ferait trop plaisir. Et quand on le voit là-bas à Aden ou à Harar, il a des rapports d'amitié avec des gens de passage, avec des aventuriers de passage comme Jules Borelli, un peu Bardet, etc., où il se confie peu. C'était quelqu'un de taiseux, mais dont on sent qu'il y a en lui un bouillonnement, comme ça, une espèce de rage. Et c'est Bardet ou Borelli qui dit qu'il semblait toujours en colère, une colère rentrée, comme ça. C'est une insatisfaction permanente, un peu.
On sent aussi, alors vous l'écrivez, hein, et s'il y a passé peu de temps sur la poésie, ça a été un vrai coup de tonnerre dans le milieu de la poésie. Alors vous écrivez à compter jusque 12 sur un boulier syllabique, éventuellement 13 pour une syllabe muette, puis en chaque bout de ligne à se soucier d'un effet sonore identique qu'on appelait la rime. Elle a fait long feu, c'est de la lumière d'étoiles mortes, essorée la formule. La poésie telle qu'on la célèbre encore agonise, étouffée sous les millions de vers entassés depuis 3 siècles. Oui, Rimbaud vient bousculer tout ça de manière...
Il a cette faculté assez incroyable à rimer. Tous les témoins, là, notamment quand il est à Paris ou à Londres, qui l'ont vu faire des vers aux débeautés comme ça, dont on a quelques traces dans l'album Zutik, c'est une facilité insolente. Mais ça ne le comble pas, ça. Et surtout, ce qu'il voit, c'est que c'est juste un art, c'est un espèce de pastiche comme ça qui peut reproduire à l'infini, mais qui n'aura pas compte du changement de monde dans lequel on se trouve à ce moment-là. C'est la dernier quart du 19e siècle, et c'est là que vont arriver toutes les inventions qui vont faire la modernité. Sa phrase, il faut être absolument moderne, c'est le mantra de l'époque, en fait. Toute la modernité vient tout bousculer. Quand il est à Paris, il va côtoyer Charles Cros, chez qui il va vivre. Il a sans doute vu dans le bureau de Charles Cros, sur sa table, les croquis de son phonogramme. C'est un scientifique, Charles Cros. Il a connu Paul de Mini, dont le frère Georges de Mini est un des inventeurs du cinématographe. On a un petit film, vous pouvez voir sur Internet, qui dure 3 secondes, dont je dis que c'est le premier film d'amour, parce qu'on voit Georges de Mini qui articule « Je vous aime » comme ça devant sa caméra. Mmh. Il a vu, quand il est à Londres avec Verlaine, il assiste au creusement du métro de Londres. Donc, il voit cette modernité-là qu'il avait vu aussi en armes, à savoir la commune de Paris avec la mitrailleuse, enfin ces bouleversements comme ça techniques et technologiques qui vont bousculer aussi l'art de la guerre, entre guillemets. C'est la cavalerie qui fait laminer à Richthofen. Et donc toute la poésie rimée qui vient de la chanson de Roland était une poésie qui tournait autour de la guerre, autour de l'amour et autour du sentiment de la nature. Comment faire rentrer cette modernité industrielle technologique
dans l'ancienne forme?
C'est à peu près comme si vous vouliez rendre compte du marteau-pilon en composant un menuet. Mm-hmm. Et il a ce sentiment-là, ce décalage formidable entre une poésie qui est juste une espèce de gimmick, comme ça, de prurite, et de la poésie de poète, comme dit Ryokan, le poète japonais, et la mission qu'il s'est donnée de la poésie, à savoir de faire rendre compte de ce formidable bouleversement de la modernité.
Il faut regretter, Jean Rouault, qu'il ait arrêté la poésie.
Il n'y a pas à regretter. Pour lui, la poésie, c'est un passage dans sa vie. Il n'est pas poète au sens où Éluard est poète, ou René Char est poète, ou Verlaine est poète. Il y a des gens pour qui la poésie est le continuum de toute une vie. Lui, ça a été un moment, un moyen d'expression où il a pu donner l'essence même de son génie. Quand il est au Harar et à Aden, qu'il se fait envoyer des dizaines et des dizaines d'ouvrages, parmi ceux-là, vous n'avez pas un livre de poésie, vous n'avez pas un roman, vous n'avez, ce sont que des ouvrages techniques. Il a un projet, c'est lui qui va soumettre l'idée de faire une ligne de chemin de fer entre, je ne sais plus où, Dirdawa, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est encombré par une intelligence formidable et qui essaye de trouver des endroits là aussi où la caser cette intelligence-là. Alors, il va être ça va marcher au Harare. Il va être, sauf pour son commerce d'armes, là où il va
se planter
avec Ménélique, mais il fait des affaires là-bas. C'est aussi une forme de génie du commerce, Rimbaud. Partout, il peut employer son intelligence, ça marche.
C'est ce que vous racontez dans...
Il a été un moment de sa vie où la poésie était placée très haut et où il lui semblait que pour être reconnu, parce que c'est quand même ça, c'est le but à peu près de tout le monde, pour être reconnu, il a pensé que c'était un bon moyen. Et quand il arrive à Paris, qu'il voit à quoi ça ressemble, la reconnaissance par les abrutis,
il préfère fuir.
C'est pas son affaire, il est pas, ça ne l'intéresse pas, c'est tout. C'est quand il dit à Germain Nouveau, j'ai abandonné la poésie écrite, je préfère les voyages.
Alors justement, Martin Mirabel, comment Germain Nouveau rencontre Rimbaud, il est quoi? Il est fasciné? Il est
Alors, on sait assez peu de choses, donc sans se perdre en conjecture, pour aller vite, il le rencontre très probablement à la fin de l'année 1873, au plus tard au début 1874, et très vraisemblablement au café Tabouret, qui était un café à l'angle de la rue de l'Odéon et de la rue de Vaugirard, au croisement face au jardin du Luxembourg. Et à cette époque-là, encore une fois, dans ce contexte, Rimbaud n'est pas du tout le mythe qu'il est aujourd'hui. C'est quelqu'un à qui plus personne ne veut parler parce qu'il y a eu un esclandre avec Carjat lors d'un dîner. Et donc, il est mis à l'écart. Il est probablement tout seul au fond d'un café. Et Germain Nouveau va le voir, en effet.
Il le reconnaît,
vraisemblablement aussi parce ils se sont croisés. Parce que Germain Nouveau, quand il est arrivé à Paris, Rimbaud partait à Londres. Donc, ils se sont vraiment croisés à ce moment-là. Mais sans se rencontrer, et il l'a connu vraisemblablement par l'entremise de l'album Zutik. Et donc, il va le voir, et très vite, le charme opère. Comme l'a dit Guy Goffet tout à l'heure, Rimbaud devait être quelqu'un d'éminemment charismatique, de magnétique, et on pouvait, à mon avis, difficilement s'en défaire. Et très vite, Germain Nouveau part à Londres avec Rimbaud, probablement, sinon à la première, du moins à la deuxième rencontre. Donc au point que dans un texte plus tardif, Richepin parle d'un enlèvement de la part de Rimbaud. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et en effet, ils ne sont pas restés très longtemps parce que Rimbaud restait peu longtemps avec les compagnons. Mais à la grande différence, c'est Germain Nouveau qui a quitté Rimbaud. Et c'est la seule personne qui a quitté Rimbaud. D'habitude,
c'est Rimbaud qui avait quitté Verlaine.
Voilà. Et là, c'est quand même le seul.
Et on sait comment ça s'est
terminé. Et c'est important de le signaler. C'est Germain Nouveau qui est parti de Londres. Rimbaud est resté à Londres. Et il était tellement désemparé qu'il a fait venir sa mère et sa sœur. Et Germain Nouveau et la famille se sont probablement croisés lors de la traversée.
Germain Nouveau, le troisième homme, on en parle juste après la musique.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est. Puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées.
La poésie chantée par Dominique A, c'était en 2018. Au pied de la lettre aujourd'hui avec Guy Goffet pour Verlaine chez Chastel, Jean Rouault pour La Constellation Rimbaud, publié chez Grasset, et Martin Mirabel pour Germain Nouveau, un cœur illuminé aux éditions Le Quai Michel de Maulle.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Alors, longue vie au troisième homme, Germain Nouveau, Martin Mirabel, puisque 1851-1920, et c'est des trois poètes que nous évoquons aujourd'hui, celui qui a
débattu le record
le plus longtemps. Il a peut-être moins bu, moins mené la fait la fête, quoique...
Non, autant, sinon plus que Rimbaud, d'ailleurs, sur la continuité, bon, la palme d'or, c'est Verlaine, hein, faut quand même le dire, ça, et de loin, mais derrière, il y a Germain, il y est allé bien comme il faut, à coup d'absinthe aussi, la fée verte, en veux-tu, en voilà, et donc, voilà, après la fin de sa vie, il ne buvait que de l'eau, et même, et se nourrissait que de pain, donc il s'est bien rattrapé, mais il y est allé, il a tout fait de manière extrême, en fait, donc la fête de manière extrême et le jeûne de manière extrême.
Avec cette passion tout de suite pour la poésie. Hein. Vous écrivez, il se désintéresse de la politique, des affaires du monde, il a en tête une chose beaucoup plus importante, il écrit des poèmes.
Oui, absolument. C'est le contraire d'aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, on s'intéressait à la poésie quand on était jeune. Et quand on voulait, comme l'a dit, je crois, Jean Roux, c'était un moyen de parvenir. Et Germain, il s'est intéressé peut-être avant tout et en première chose au dessin. Il a commencé par dessiner. Et ça ne l'a jamais quitté, d'ailleurs.
Il mène les deux.
Mais voilà, il a mené les deux de front. C'était un visuel, là où je pense que Verlaine était un sonore, un auditif. C'était une oreille, Verlaine, et Germain, c'était un regard. Et Rimbaud était ailleurs, comme d'habitude. Et donc Germain, mais la poésie, c'était très important. Et quand il est parti de son petit village natal de Pourrières pour d'abord aller à Marseille un an, et puis de Marseille, il est parti à Paris.
Il vient du sud.
Oui, alors ça, c'est très important, c'est un méridional. Ouais. Ça, c'est la grande différence avec Rimbaud et Verlaine. Je pense que Rimbaud et Verlaine sont des gens du nord ou de l'est, mais du nord.
Côté un peu rude.
Voilà, des trous verts. Et Germain Nouveau, c'est un troubadour. C'est vraiment quelqu'un qui est en dessous de la Loire. On peut presque entendre l'accent dans les poèmes de Germain.
Alors, vous l'avez dit, hein, Martin Mirabel, c'est à la fois passionné par la poésie, mais en même temps, il ne veut pas trop être exposé. Il écrit des poèmes, ne publie pas, il utilise des pseudos. Il y a un rapport à l'œuvre un peu compliqué.
D'abord à lui-même, donc à l'œuvre subséquemment, mais d'abord à lui-même et d'abord à l'identité. Il a été frappé dès son enfance. Par des morts partout autour de lui, des fausses couches, des jeunes sœurs qui sont mortes, et puis les morts de ses parents. Il était orphelin à l'âge de 11 ans, je crois. Et ça a été terrible pour lui. Donc il y a un trouble identitaire natal. Et depuis, il cherche. Voilà, il y a plusieurs pseudonymes. Il fait tout pour être édité. Dès qu'il l'est, il fait tout pour ne plus l'être. Enfin, c'est la contradiction incarnée. Il y a une haine de soi qui sourd derrière tout ça. Mélangé avec de l'orgueil, enfin c'est une alchimie très particulière, Germain, ce qui n'aide pas du tout à sa postérité, parce que c'est quelqu'un qu'on a la postérité, c'est quelqu'un qui, enfin il faut la bâtir, c'est un travail la postérité, faut travailler pour avoir de la postérité de son vivant ou que des gens travaillent pour nous. Et Germain il a fait tout sauf ce travail, il a fait un travail d'auto-sabotage qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais je vous remercie de m'inviter quand même et de commencer une résurrection. Oui. Hein, c'est magnifique. C'est magnifique.
C'était nécessaire.
Non, c'est totalement nécessaire.
C'est
vraiment.
C'est important.
On l'attendait.
On l'attendait. Ouais.
Ce Germain Nouveau.
Donc il ne faut jamais désespérer.
Non, absolument. Ouais, et puis il y a eu des précurseurs. Hein. Je ne suis pas le premier à écrire un livre sur Germain Nouveau.
Oui.
Mais voilà, ça, c'est quelqu'un de.
Il a un petit peu de retard quand même. Hein. Là, pour le coup, il va falloir.
Il y a beaucoup de retard.
Rattraper,
c'est
ouais.
Sûr. Mais il n'y a pas eu une cohue comme Rimbaud qui a bâti le mythe, etc.
C'est ça.
Il y a aussi chez lui, alors, qui rapproche Verlaine et Nouveau, cette fois-ci, non plus Rimbaud, cette conversion mystique aussi.
Essentielle, très importante. C'est en effet, Guy Goffet l'a rappelé, Verlaine qui a converti. Germain Nouveau, alors moi j'aime pas trop le terme conversion parce qu'il était né catholique, il a grandi dans un syncrétisme provençal, un mélange de paganisme méditerranéen et de catholicisme, et donc il avait déjà ça en lui, je veux dire, mais disons que Verlaine a réanimé ça, et grâce à une visite très simple, ils étaient en vacances chez la mère de Verlaine à Arras. Et ils sont allés en pèlerinage à Hamet, dans l'Artois, qui était le village natal de Saint-Benoît-Labre, qui était un saint qui revenait en vogue à l'époque. Saint-Benoît-Labre, c'était le seul saint de l'époque des Lumières, qui n'était pas du tout, qui fabriquait beaucoup plus des gens laïcs que des saints. Et donc, c'est un saint très particulier. Et Germain Nouveau s'est mis dans ses traces littéralement. L'a pris, on va dire, plus au pied de la lettre que Verlaine, et au point d'aller jusqu'à de vivre comme lui à la fin de sa vie. Et quand il a fait un pèlerinage à Rome, dans des conditions, il se fait exclure des églises, et il allait très très loin.
Alors, vous expliquez aussi qu'il est à la fois influencé par Hugo, Baudelaire, et puis Verlaine et Rimbaud, donc il se cherche aussi un peu.
Bien sûr, comme tout le monde, il commence par Hugo, Baudelaire, les poètes, les grands classiques de l'époque, ce qui était encore moderne. Comment le lui reprocher en même temps? Mais très vite, voilà, il y a les nouveaux qui arrivent. Enfin, les nouveaux avec un X, hein, et c'est les Verlaine, même à l'armée, et puis Rimbaud. Et là, évidemment, c'est une illumination pour lui. Et c'est ce que je dis dans le livre. Je pense que Germain Nouveau n'est pas un illuminé, mais qu'il a été illuminé. Notamment par sa rencontre avec Rimbaud.
Vous parlez d'auréole sulfureuse.
Oui, je pense que c'est une sainteté, mais comme toute vraie sainteté. C'est pas un saint, Germain Nouveau, mais je veux dire, c'est une foi qui trempe son cœur dans l'absolu et pas dans le bénitier. Et c'est pas exactement pareil. C'est pas la même eau. C'est une eau qui est teintée d'absinthe chez Germain, et pas que de consécration.
Jean Rouault, on voit Germain Nouveau plusieurs fois apparaître dans votre livre, hein, la constellation Rimbaud. Oui, c'est un personnage quand même qui compte un peu plus que d'autres.
D'abord, c'était un compagnon de Rimbaud. On a le verbatim à travers de la haie, là, de la rencontre au café Tabouret. Ce serait Germain Nouveau qui aurait proposé à Rimbaud de l'accompagner à Londres. Et Rimbaud a cette réplique magnifique, si vous voulez, mais je vous préviens, il va y avoir de la misère. Mmh. La misère ne le rebute pas. Et alors sur le départ de Londres, il y a aussi le côté, ce que disait Martin, c'est le côté méridional. C'est que lui, là, Londres dans le fog, le brouillard, etc., ça raconte, c'était quelqu'un qui effectivement parlait beaucoup alors que Rimbaud était plutôt un taiseux. Il était incompatible avec aussi le climat et la mentalité londonienne. Et puis il y a une chose aussi qui est troublante, c'est Delahaye qui préface une publication qui est d'un recueil qui va se faire malgré lui, parce que lui il ne voulait pas qu'on publie sa poésie. Et il se trouve que ce recueil-là, publié en 1910, va être illustré par Rodin. Rodin, à l'époque, c'est une méga star, c'est pas quelqu'un à qui on écrit pour illustrer un livre de poèmes qui ne dit rien à personne. Et en fait, ils se sont connus, Verlaine, Rodin et Rimbaud, et au point que, parce que Rodin était à Verlaine, était à Bruxelles quand Verlaine et Rimbaud y étaient, et au point que il y a une femme qui a suspecté le fait que ce tableau de Rimbaud alité, là, qu'on a trouvé au XXe siècle, serait de Rodin. Et le fait que Rodin, ami de Verlaine, et Germain Nouveau, ami de Verlaine, le fait que ce soit Rodin qui illustre ce recueil de Germain Nouveau, ça redit aussi à quel point tout ces gens-là se connaissaient entre eux et qu'ils incarnaient la modernité esthétique du temps.
Ouais,
Rimbaud a aussi connu des impressionnistes. Hein.
Voilà, tout un cercle d'intellectuels, d'artistes. Alors je reprends, Martin Mirabel, dans votre livre, une correspondance qu'adresse Germain Nouveau. « Mon cher Rimbaud, ayant entendu dire à Paris que tu habitais Aden depuis pas mal de temps, je t'écris à Aden à tout hasard. Et pour plus de sûreté, je me permets de recommander ma lettre au consul de France à Aden. Je serais heureux d'avoir de tes nouvelles directement, très heureux. » Dites-nous un peu cette lettre qui arrive.
Alors là, ça n'en est qu'un extrait, mais c'est une lettre magnifique, qui est assez longue, que Germain Nouveau écrit et adresse via le consul de France à Arthur Rimbaud. Germain Nouveau, à ce moment-là, est à Alger et il adresse la lettre à Rimbaud, sauf qu'il ne le sait pas, mais Rimbaud est mort.
Voilà.
Donc il adresse cette lettre à un mort. C'est une lettre, pas posthume pour Germain Nouveau, mais posthume pour Rimbaud, qui ne l'a évidemment jamais reçue, du moins par des moyens qui nous échappent. Et donc, c'est une lettre assez bouleversante. Et Germain Nouveau n'a évidemment jamais oublié Rimbaud, mais il faut dire aussi probablement et vice-versa. Je pense que même si Rimbaud, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, est passé complètement à autre chose, je ne pense pas qu'il ait oublié le contact ni avec Verlaine, ni avec Germain Nouveau, mais qu'il est sciemment passé à autre chose. Mais c'est toujours là, c'est certain. Mmh. Et donc voilà, cette lettre est très belle. Il y a deux poèmes aussi de Germain Nouveau explicitement sur Rimbaud. Et qui sont très très beaux aussi, qui sont à découvrir.
Allez, si vous nous trouvez un petit extrait dans votre livre, je vous ai pas prévenu, mais pour lire cet extrait,
il faut lire le poème sur Rimbaud, qui est magnifique.
Par exemple, le temps nous est compté, mais on va essayer glisser ce poème avant la fin de l'émission. C'est de le retrouver dans la page parce qu'il est plutôt.
Il y a beaucoup d'occurrences Rimbaud, donc l'index ne va pas nous aider, mais. Ça. Dédoublement sans fin d'un typique fantôme, que l'or de ta prunelle était peuplé de rois. Est-ce moi qui riais à travers ce royaume? Je tenais le martyr ayant les bras en croix. Le fleuve au loin, le ciel en deuil, l'eau de tes lèvres, immense trilogie amère au cœur noyé. Un goût m'est revenu de nos plus forts genièvres lorsque ta joue à lui près des yeux dévoyés. De ton attifement de boucles et de ganses, vieux bébé, de tes cils essuyés simplement, et de vos piétés et de vos manigances, qui m'auraient bien pu rendre aussi chien que l'amant. Il ne devait rester qu'une ironie immonde, une langueur des yeux détournée sans effort. Quel bras, impitoyable aux échappées du monde, te pousse à l'est pendant que je me sauve au nord. Vieux bébé, c'est très bien pour Rimbaud.
Voilà, tout à fait. Alors Guy Goffet, oui, il nous reste juste une minute. Oui, il faut réhabiliter Germain Nouveau.
Certainement. Moi, j'y tiens et je suis très heureux. Je vais lire ce livre avec plaisir.
Et curiosité,
et
sans
intérêt,
doute.
Et intérêt. Parce
voilà.
que...
Sachant que c'est Aragon qui avait déjà dit que...
Non pas l'épigone de Rimbaud, son égal.
Ouais, son égal. Merci à tous les trois pour cet échange sur la poésie. Peut-être, Guy Goffet, un titre de recueil, peut-être contemporain, un poète qu'il faudrait suivre aussi, peut-être. Ce ne sera pas le Rimbaud du 21e siècle, mais...
Je ne sais pas, Emmanuel Godot.
Emmanuel Godot, qu'on a déjà reçu à ce micro. Voilà. Vous êtes d'accord,
Martin? Totalement. Son livre sur Claudel est un plus beau livre sur Claudel que j'ai jamais lu.
Ben
mais
voilà.
Je parle aussi de ses poèmes.
Que je ne connais
je
pas.
Pense que, enfin, le dernier manuscrit que je viens de lire, mais ce n'est pas encore paru.
Mais pour écrire le livre qu'il a écrit, c'est
que vous allez éditer,
le
donc.
Livre d'un poète.
Ben ça fait le troisième.
Ça sera le troisième, voilà. On est l'éditeur du poète Emmanuel Godot. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Verlaine, Guy Goffet, c'est paru chez Bûcher Chastel, collection Les Auteurs de ma vie. La constellation Rimbaud de Jean Rouault chez Grasset. Germain Nouveau, Un cœur illuminé. Martin Mirabel s'est publié au Quai Michel de Maulle. Merci à Pierre-Henri Paget qui était à la réalisation de l'émission. Au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de lire et prenez soin de vous.